Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14, ravi de vous retrouver au programme aujourd'hui. Un écolier sur 10 harcelé, plus encore sur Internet et les réseaux. Journée de lutte contre le harcèlement scolaire aujourd'hui. Le président de la République compte s'y attaquer, il le dit.
Nous pouvons remporter ce combat contre le harcèlement, à condition d'en parler toujours et encore, à condition de ne rien céder à la loi du silence, de l'indifférence ou de la honte. Nous ne lâcherons rien.
Vidéo postée ce matin sur les réseaux, Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures, création d'une appli pour signaler le cyberharcèlement, multiplication des points d'écoute, formation au numérique. Parole d'écoliers concernés dans ce journal et à 13h30, deux invités pour raconter et pour réagir à ce nouvel arsenal. Nora Fraisse, dont la fille victime de harcèlement s'est suicidée à 13 ans, et Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation. Vos témoignages et vos questions 01 45 24 7000. Au menu encore du journal de 13h, le double jeu de l'Europe sur les pesticides. Elle a exporté l'an dernier vers l'étranger plus de 4000 tonnes de néonicotinoïdes interdits sur son sol. Dans le journal encore, Apple va permettre à ses clients de réparer leurs appareils. Le nouveau président de l'Association des maires de France prend la parole cet après-midi. Le maire LR de Cannes, David Lisnard, tout juste élu, incarne une forme d'opposition à Emmanuel Macron, portrait d'un ambitieux. Dans le 13-14 encore, musique. Le chanteur Cyril Mokayesh avec une chanson de Marc Lavoine dans la chronique C'est une chanson. Et la star mondiale Adèle dans le journal, elle était ce matin l'invitée exclusive de France Inter. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Néonicotinoïdes, c'est le nom barbare de ce pesticide ultra toxique pour partie interdit sur le sol européen car ils sont considérés, ces pesticides, comme tueurs d'abeilles. Interdit chez nous, oui, mais vendu par nous. À l'étranger, c'est légal, certes, mais dénoncé par les ONG comme Greenpeace ou les Britanniques de Public Eye. Selon leur dernière enquête, les pays de l'Union ont exporté l'an dernier pas moins de 4000 tonnes sur 4 mois seulement. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Spécialiste environnement de France Inter, certains de ces produits sont même fabriqués en France où leur commerce sera bientôt interdit.
Oui, les ONG ont épluché les 300 notifications d'exportation approuvées entre septembre et décembre 2020 au départ de la Belgique, mais aussi de la France, de l'Allemagne ou de l'Espagne. Au total, vous le disiez, 3900 tonnes de produits contenant des néonicotinoïdes interdits en Europe qui ont été vendus dans 65 pays, Russie, Ukraine, pays du Maghreb, mais surtout le Brésil où le géant de l'agrochimie Syngenta, ex-entreprise suisse passée sous giron chinois, écoule son best-seller. Géraldine Viret, porte-parole de l'ONG Public Eye, co-auteur de cette enquête.
On voit sur ces 4 mois, Syngenta a exporté là-bas 2,2 millions de litres d'un produit qui s'appelle l'NGO Plenos, qui est destiné aux immenses plantations de soja. Ces produits-là, ce sont de puissants neurotoxiques, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent au système nerveux des abeilles. Ils sont très persistants et rendent l'environnement toxique pour les abeilles, mais aussi d'autres insectes et animaux. Beaucoup d'États de l'Union européenne continuent à tolérer l'exportation de substances qu'elle a elle-même interdites. Et pour nous, c'est une position hypocrite et on doit y mettre un terme.
Ces exportations ne devraient plus être possibles depuis la France dans quelques mois. La loi alimentation promulguée en octobre 2018 va en effet interdire à partir de 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytosanitaires non autorisés en Europe.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement de France Inter. La France compte profiter de sa présidence de l'UE dès janvier prochain pour mettre à l'agenda l'interdiction généralisée de ses exports de pesticides par les pays membres. Ne rien céder à la loi du silence, de l'indifférence et de la honte. Le président de la République veut s'attaquer à la question du harcèlement scolaire. Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures dans une courte vidéo postée ce matin sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui la journée consacrée à la lutte contre le harcèlement, phénomène qui toucherait, selon les estimations, un écolier sur 10 environ. Témoignage en Picardie dans les rues d'Amiens au micro de Claudia Calmel.
7 jeunes interrogés au hasard en centre-ville et parmi eux, 3 qui disent avoir été confrontés au harcèlement scolaire, comme Jeanne.
On me mettait des chewing-gums dans les cheveux, on me poussait dans les escaliers du collège.
Ça a duré combien de temps ?
Les 4 années de collège.
Sofiane est aussi passée par là, pas plus tard que l'an dernier, en 5e.
On prenait des photos de moi et on faisait une espèce de montage et on mettait sur un réseau, ça n'avait pas plu du tout. Faire du mal comme ça, ils ne se rendent pas compte que, pas physiquement, mais à l'intérieur, oui, beaucoup.
Noah était encore plus jeune, il a 11 ans, mais il en avait avait 8 quand des camarades de classe ont commencé à s'en prendre à lui. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans.
Il m'insultait parce que j'avais une couleur de peau différente. Il me frappait. Trop Internet, ça peut brutaliser certains.
Le harcèlement sur Internet est justement l'un des fléaux que veut combattre l'éducation nationale. Cyril Douet est le principal du collège Jean Moulin d'Albert.
L'élève, quand il rentrait auparavant, il rentrait chez lui, il soufflait d'un phénomène de harcèlement qui peut avoir lieu en établissement scolaire. Là, ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire que vous rentrez, vous vous connectez à votre téléphone portable et ça continue.
Selon les estimations, le harcèlement scolaire concernerait 5 à 6% des enfants.
Reportage France Bleu Picardie. Parmi les annonces du chef de l'État, le numéro de téléphone 3018 consacré au cyberharcèlement deviendrait aussi une appli pour faciliter les signalements. Les points d'écoute et lieux physiques pour les ados seraient renforcés et une certification au numérique serait mise en place pour les élèves dès la 6e. Toutes ces mesures sont résumées sur notre site franceinter.fr et on en parle à 13h30 avec Nora Fraisse, la mère de Marion, une adolescente victime de harcèlement qui s'est suicidée. Avec nous aussi la secrétaire d'État Nathalie Elimas. Vos témoignages et vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Elles sont victimes de violences conjugales et peinent à s'en extraire faute de porte de sortie. 4 femmes concernées sur 10 ne trouvent pas d'hébergement d'urgence, selon un rapport de la Fondation des Femmes et de la Fédération Nationale Solidarité Femmes paru aujourd'hui. Les deux organisations réclament plus de moyens, mais en attendant, d'autres initiatives se mettent en place. Mathilde Ansker, des initiatives citoyennes. En clair, les victimes sont parfois hébergées chez des particuliers.
L'association les appelle les familles accueillantes. C'est chez elles que Cultivons la Confiance propose à des femmes victimes de violences d'être hébergées. Astrid Noquet est coprésidente de l'association. Pour elle, rester dans une famille comporte plusieurs avantages pour ces femmes.
D'une part, c'est un milieu sécurisant au sens que c'est cocoon et c'est confortable. Et puis dans un deuxième temps, c'est de voir qu'il est possible d'avoir d'autres liens dans le couple qui accueille et puis dans le rapport avec les enfants.
Chez les familles, les victimes trouvent une chambre, un environnement stable, mais pas que, car l'hébergement, ce n'est qu'une partie de la solution.
On ne règle pas la question de violence conjugale avec un hébergement d'urgence. C'est jamais assez long, c'est jamais assez complet. On va accompagner la personne à sortir du mode survie, urgence. Ça, c'est une deuxième étape.
Une étape qui permet de voir plus loin, de se projeter et d'éviter que la victime ne retourne chez elle.
On va accompagner cette personne sur l'accès au droit, sur l'accès aux soins, et puis on va venir cultiver la confiance par la valorisation de la personne. On va l'accompagner à pouvoir reprendre des décisions pour elle-même.
Cet accompagnement passe notamment par l'intervention de thérapeutes qui travaillent avec l'association.
L'épidémie de Covid reprend en France. Nouvelle hausse des hospitalisations. 1300 patients Covid sont en réanimation. Et sur une journée, on compte plus de 20 000 nouvelles personnes contaminées. L'épidémie reprend, oui, mais l'économie aussi. L'OCDE estime aujourd'hui que la richesse produite en France va progresser cette année de 6,8%, plus que les 6,2% prévus par le gouvernement. En revanche, l'organisation pointe la hausse des dépenses publiques. Il faudrait, dit-elle, une règle de dépenses pluriannuelle pour contenir les déficits. Elle défend aussi l'idée d'un relèvement de l'âge de départ à la retraite. Notre système est trop fragmenté, selon l'OCDE. Pour contenir la 5e vague de Covid, revenir aux gestes barrières et pourquoi pas au télétravail. C'est ce que font nos voisins belges, par exemple, obligés de travailler le plus possible à distance dès lundi prochain. Ce genre de contrainte va-t-il à nouveau s'appliquer chez nous? En tout cas, une députée de la majorité s'applique à mieux aménager ce mode de travail. Claire Chaudière, elle propose un forfait télétravail payé par les employeurs pour prendre en charge les frais qui vont avec.
L'idée a germé au sein de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, dont la députée LREM Frédéric Lardet, à l'origine de cette proposition de loi, est aussi la présidente. 1000 salariés, explique-t-elle, et des conditions très inégales de travail à domicile.
On s'est très vite aperçu la limite du télétravail, notamment pour les personnes qui n'ont pas la chance, comme certains, d'avoir des maisons, d'avoir la capacité à avoir des réseaux internet fiables.
La solution donc, télétravailler mais pas chez soi, d'où ce projet d'un forfait de 600 euros annuel qui couvrirait non seulement une partie des frais d'abonnement internet ou d'électricité, comme le prévoit déjà la loi et de nombreux accords d'entreprise, mais aussi les frais de travail dans un télécentre avec une solution de paiement dématérialisée, ce qui évite au passage les factures et les avances de frais.
Vous avez une carte de télétravail, vous la présentez au télécentre. Donc simplification administrative, simplification pour le salarié et accompagnement au développement des télécentres, des espaces de coworking.
Autant d'espaces de de travail, ajoute la députée, qui sont aussi l'avenir des territoires excentrés. 2500 tiers-lieux ont ouvert leurs portes ces dernières années, un peu partout en France.
Et pour ceux qui télétravaillent ou non d'ailleurs, avec un iPhone ou un MacBook, pour les familiers de la marque à la pomme et de ses standards et produits très exclusifs, c'est une petite révolution. Apple va bientôt permettre à ses utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs téléphones et certains ordinateurs. Le géant américain lance un magasin en ligne de pièces détachées. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Marion.
Alors quel est le principe ?
Alors, virage à 180 degrés pour Apple. Dès l'an prochain, il sera possible de réparer soi-même les tout derniers iPhones, certains ordinateurs de la marque, alors qu'Apple refusait catégoriquement jusqu'ici ce principe de la réparation à domicile. Il sera donc possible de commander des pièces détachées pour changer l'écran, la batterie, l'appareil photo de son téléphone, à charge quand même pour l'utilisateur de commander au passage les outils nécessaires et de se documenter avant d'ouvrir les entrailles de son téléphone. Avec cette mise en garde de taille, toute mauvaise et funeste manipulation sur l'appareil ne serait et ne pourrait être invoquée pour enclencher une réparation sous garantie des dégâts causés par le bricoleur du dimanche. Alors si Apple ouvre néanmoins son magasin de pièces détachées pour la première fois de son histoire, cela ne signifie pas que tout le monde devrait le faire, précise la marque à la pomme. La possibilité sera offerte début 2022 aux États-Unis, puis en Europe au fur et à mesure de l'année.
Laurent Kramer du service économie de France Inter, merci à vous. C'est la travail et handicap, c'est la semaine nationale en ce moment. De nombreuses opérations sont organisées, dont le Duo Day. L'événement a lieu aujourd'hui 18 novembre dans les entreprises privées ou publiques. Le principe, une personne en situation de handicap passe une journée aux côtés d'un professionnel. Près de 30 000 offres de duo ont été proposées cette année, soit trois fois plus que l'an dernier. C'est la quatrième édition en France de ce concept né en Irlande. Est-ce que ça marche, Alice Cachaner ?
Le Duo Day, c'est une opération de sensibilisation, mais aussi un levier vers l'emploi. D'après un sondage commandé par le ministère des Solidarités et de la Santé, le dispositif a permis l'an dernier à 10% de ses participants de trouver un stage, un CDD ou encore une alternance. C'est le cas de Kevin Bustamante, un jeune développeur informatique non-voyant qui a formé un tandem avec le patron d'une entreprise spécialisée dans le numérique.
Avoir passé une journée, ça a permis en tout cas d'échanger et en tout cas de pouvoir vraiment présenter la problématique. Également lui présenter mon projet professionnel. Issu de cet apprentissage que j'ai fini donc en août dernier, la collaboration a décidé de se poursuivre et donc j'ai signé mon CDI en septembre dernier. C'est pas un vie-ma-vie, l'objectif c'est vraiment de pouvoir permettre à la personne par la suite d'être recrutée.
Le Duo Day comme outil de rencontre, d'interaction, c'est forcément une bonne chose, mais le dispositif a ses limites, reconnaît Carole Salaire de l'association APF France Handicap.
Parfois peut-être une certaine inadéquation entre ce que recherchent les entreprises et les projets des personnes. Parfois, c'est un peu compliqué de faire coïncider pour que ça ne reste pas juste une opération avec de l'affichage.
Et l'association de rappeler que le taux de chômage des personnes handicapées est près de deux fois supérieur à celui de la population globale.
Le sujet Ascoval devient politique. La scierie de Saint-Saulve, dans le Nord, va délocaliser provisoirement 40% de ses activités vers l'Allemagne. En cause, le coût des fours électriques français, plus élevé que celui des fours au charbon allemand, qui sont aussi plus polluants. Deux candidats à l'investiture LR, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, réclament que le gouvernement agisse pour empêcher ce transfert. Il n'est pas question de délocaliser définitivement Ascoval vers l'Allemagne, répond aujourd'hui le ministre de l'économie. Plus consensuel, la question du bien-être animal. La loi contre la maltraitance vient d'être adoptée définitivement au Sénat. 332 voix pour, une contre et 10 abstentions. Elle prévoit d'interdire progressivement les animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, d'empêcher la vente de chiots et de chatons en animalerie, de durcir les peines pour abandon et sévices contre les animaux. Autre mesure importante, la délivrance d'un certificat aux propriétaires avant adoption. Quelles conséquences pour les refuges de la SPA ? Marion Botorel a visité l'un d'eux à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne.
Les abandons, c'est le quotidien de la responsable Marie-Jo.
Hier, par exemple, on est venu m'abandonner deux Malinois qui viennent de Hongrie, achetés dans une animalerie. Cette animalerie leur a vendu, prenez deux chiens, et on fait le prix des deux chiens pour un seul. Donc ils les ont achetés et ils sont venus pour nous abandonner.
Et c'est tout le temps, selon elle, des achats compulsifs.
Ils m'ont dit, ah ben, parce qu'ils étaient malheureux dans l'animalerie et que la personne leur a dit, si vous les prenez pas, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Enfin voilà, ils les ont forcés à les prendre. Une bonne action, mais la bonne action, elle n'est pas faite là. Ils l'abandonnent.
Exit les animaleries avec la future loi et bienvenue au certificat pour les propriétaires pour s'assurer de leur engagement avant adoption. Car oui, c'est vraiment un engagement.
C'est le troisième enfant de la maison.
Ludivine vient chercher Mario, son chien qui a disparu pendant 15 minutes d'inattention.
Bien souvent, on achète un animal par coup de cœur parce qu'ils sont petits et que c'est attendrissant. Quand ils grandissent, et ben on se rend compte des contraintes, donc que les gens prennent conscience que c'est pour toute une vie.
Une énième loi, Mathieu, bénévole à la SPA, estime que ça ne va pas diminuer les abandons de chiens de chasse, 60% des animaux ici.
Ils sortent juste pour la chasse, on a des états pitoyables. Quoi. Avec des escars, ils sont maigres. C'est pas avec une loi qu'on va changer les gens. Quoi.
Le refuge de Saint-Gaudens préfère compter sur un agrandissement à l'avenir. 300 000 euros leur a été accordé par France Relance.
Un reportage France Bleu Occitanie. La politique aujourd'hui, c'est surtout le premier discours du nouveau président des maires de France. Le maire de Cannes, David Lisnard, désigné hier par les 34 000 élus pour remplacer François Baroin, LR également. Il s'impose, David Lisnard, face à l'UDI. Philippe Laurent, maire de Sceaux, plus enclin à discuter avec la majorité. David Lisnard, lui, compte incarner l'indépendance de l'AMF face au pouvoir en place. Une nouvelle étape dans le parcours d'un grand ambitieux, Anne Souhaitement.
Ancien commerçant, né dans une famille installée à Cannes depuis des siècles, David Lisnard devient adjoint au maire en 2001, en charge notamment de l'événementiel et donc du festival. Coureur de fond, il attend son heure et prend la mairie en 2014. Deux ans plus tard, après l'attentat de Nice, premier coup d'éclat, David Lisnard fait la une en prenant un arrêt anti-Burkini qui sera cassé par le Conseil d'État.
C'est une provocation inutile. Donc la provocation, c'est pas l'arrêter. C'est ceux qui prennent ce type de tenue, qui sont de vrais uniformes. Je crois que certaines personnes... peut-être le font de bonne foi, il faut leur expliquer. Il y a quelques provocateurs, il faut qu'on ne subisse pas cela, qu'on puisse intervenir.
Réputé travailleur, omniprésent sur le terrain, David Lisnard est réélu en 2020, en plein Covid, avec un score soviétique, 88% des voix. Sur tous les fronts pendant la crise, masques, vaccins, il crève l'écran, prend la tête d'une fronde contre l'exécutif, malgré son amitié pour Édouard Philippe.
Ce qui caractérise notre pays, c'est qu'à chaque étape, on s'est planté. Ça a commencé par le manque de gel hydroalcoolique, sixième puissance mondiale. On a oublié les masques, on disait pas porter des masques. Les mairies distribuaient des masques, on était attaqué au tribunal par l'État.
Amoureux des caméras, ambitieux, David Lisnard passe de second couteau à espoir d'une droite en mal d'incarnation et s'il avait des ambitions présidentielles. Sans jamais démentir les rumeurs, il ne sera finalement pas candidat au Congrès LR mais à la présidence de l'AMF dont il compte bien faire une tribune.
L'intervention de David Lisnard sera suivie cet après-midi par un discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, pas candidat pour l'instant à sa succession mais qui prépare en coulisses une majorité susceptible de porter sa candidature, une maison commune capable de réunir le centriste François Bayrou et l'ex-premier ministre Édouard Philippe. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Nouvelle réunion sur le sujet hier chez le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Le projet avance.
Oui, une avancée historique même selon l'un des participants. C'est vous dire que l'accouchement de cette maison commune est difficile. Encore hier soir, les 12 apôtres du macronisme qui étaient autour de la table ont parlementé jusqu'à 1h30 du matin pour arriver à s'accorder, à avancer sur plusieurs points. Le nom, ce sera très probablement Ensemble Citoyens au pluriel et avec point d'exclamation. 2. Le fonctionnement, tous derrière Emmanuel Macron pour 2022, tous sous la même bannière aux législatives, mais libres d'appartenir chacun à son parti, LREM, Modem, Agir, Horizon, etc. 3. Une direction collective, Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe, Jean Castex, et sans doute une femme, tout cela étant très masculin pour l'instant. Et enfin, 4, un meeting de lancement avant le 4 décembre pour couper l'herbe sous le pied des LR et de leur congrès, mais après le 28 novembre, date qui avait été évoquée, mais qui aurait obligé Édouard Philippe à annuler sa soirée d'anniversaire. Il fallait ménager la susceptibilité de l'ancien Premier ministre, dont tout le monde redoute au sein de la majorité les ambitions et qui n'est vraiment pas chaud pour cette maison commune. Voyez à quoi cela tient parfois la politique, Marion.
Merci Simon Le Baron, avec un point d'exclamation.
l'impression. Lui non plus n'est pas candidat, lui aussi s'active malgré tout entre tournées promotionnelles pour son nouveau livre et déplacements plus ou moins politiques. Éric Zemmour devait se rendre à Londres demain et après-demain, déplacement maintenu pour le moment, sauf que la salle qui devait l'accueillir a annulé sa réservation. Celui qu'on présente outre-Manche comme candidat présumé à la présidentielle cherche un nouvel endroit pour l'accueillir et rencontrer quelques centaines de personnes, principalement des Français expatriés. Correspondance à Londres, Richard Place.
Des découvertes qui ont changé la face du monde ont été dévoilées à la Royal Institution, comme l'invention de la photo, la découverte de l'électron ou encore le moteur électrique. Voici la présentation de ce centre de recherche du quartier de Mayfair, à deux pas de Buckingham. Fondé en 1799, parrainé par le prince Charles, ce lieu loue des salles pour des conférences, la plus grande pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes. L'équipe d'Éric Zemmour avait loué et payé, dit-elle, sa location. L'institution londonienne affirme qu'elle a traité cette demande comme les nombreuses autres qu'elle reçoit et finalement décidé d'annuler cette réservation à la suite d'un processus de diligence raisonnable, sans plus d'explications. Ici, le polémiste français suscite un intérêt chez une frange extrême des conservateurs, pas tant pour ses idées que pour sa capacité à déstabiliser Emmanuel Macron, honni par les tenants du Brexit et de la souveraineté britannique retrouvée. Pour autant, aucune rencontre officielle n'est prévue entre des membres de la majorité et Éric Zemmour. Londres, Richard Place, France Inter.
Le Royaume-Uni et le Brexit, toujours source de tensions entre Londres et Paris. La ministre de la Mer dénonce aujourd'hui la non-coopération de l'île anglo-normande de Jersey dans l'affaire des licences de pêche. 46 demandes d'autorisation française pour les eaux territoriales britanniques restent sans réponse à ce jour. Brigitte Girardin demande à ses services de renforcer les contrôles sur les navires britanniques. Elle va aussi organiser, dit-elle, des indemnisations pour les pêcheurs français qui n'obtiendraient pas le sésame de la part des autorités britanniques. Le ton monte encore autour de la crise migratoire aux portes de l'Europe avec des milliers de réfugiés toujours massés dans le froid à la frontière entre Biélorussie et Pologne, mouvement encouragé par les autorités biélorusses selon l'UE. Une centaine de migrants ont été arrêtés en Pologne alors qu'ils tentaient de franchir cette frontière. D'autres, 200 Irakiens, prennent pour la première fois un vol qui les ramène dans leur pays d'origine aujourd'hui, alors que Moscou, accusé de soutenir la Biélorussie, se défend d'être à l'origine de tous les maux dans cette affaire. La question migratoire au cœur aussi d'un procès à partir d'aujourd'hui devant le tribunal de Lesbos, cette île grecque connue pour avoir vu affluer le nombre de réfugiés. Pour avoir vu affluer nombre de réfugiés, 24 bénévoles comparaissent accusés d'avoir aidé l'immigration illégale. Parmi eux, un jeune humanitaire irlandais de 27 ans. Arrêté en 2018, il a passé 106 jours en détention préventive avant sa libération sous caution. Valérie Crova a pu s'entretenir avec lui.
Sean revient à Lesbos où il a passé plusieurs mois comme coordinateur des opérations de sauvetage pour une ONG grecque. Cette fois, c'est pour comparaître devant un tribunal.
Ce dont je suis accusé correspond à trois délits. Fraude, espionnage et également utilisation illégale de fréquences radio.
Parce qu'il a écouté les radios des gardes-côtes grecques qui n'étaient pourtant pas cryptées, Sean serait un espion. Une accusation fantaisiste pour le jeune homme auquel la justice grecque reproche en réalité d'avoir participé au trafic de migrants.
Ces poursuites sont terribles, non seulement parce qu'elles me visent, mais parce qu'elles peuvent viser n'importe qui. Que feriez-vous si vous voyez quelqu'un en détresse en mer? Vous feriez exactement la même chose que moi, c'est-à-dire tendre la main et essayer d'aider quelqu'un. Il s'agit du droit à la vie et de notre devoir de respecter le droit à la vie.
Sean et Amnesty International qui le défend le clament. Les autorités grecques font une utilisation abusive des lois pour arriver à leur fin.
3 ans après notre arrestation, il n'y a plus de recherche ni de sauveteurs qui opèrent sur l'île, parce qu'ils ont peur. Et c'est exactement le but de ces poursuites.
L'affaire de Sean n'est pas un cas isolé. Ils sont au moins 180 à travers l'Europe à risquer la prison pour avoir porté secours à des migrants.
Sean Binder qui risque, lui, 8 ans de prison. Ce courriel relance l'inquiétude autour de la disparition de l'ancienne championne de tennis chinoise, Peng Shuai. La jeune femme n'est pas réapparue publiquement depuis début novembre. Elle avait accusé un ancien haut dirigeant chinois de l'avoir agressée sexuellement. Les médias chinois publient aujourd'hui un message qui lui est attribué, mais qui pose beaucoup de questions. Correspondance à Pékin, Dominique André.
Peng Shuai est-elle l'auteur de cet email envoyé à la WTA, l'association des joueuses de tennis? La CGTN, la télévision d'État chinoise, publie une capture d'écran du courriel, mais exclusivement sur Twitter, censuré en Chine, et non pas sur les réseaux sociaux chinois comme Weibo. Dans ce message, écrit en anglais, l'ex numéro 1 mondial en double, âgé de 35 ans, contredirait ses précédentes accusations d'agression sexuelle à l'encontre de l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli, qui fut l'un des 7 hommes politiques les plus puissants du pays de 2013 à 2018. « Je ne suis ni disparu ni en danger, je suis au repos chez moi, tout va bien. » « Merci d'avoir pris des nouvelles », affirmerait Peng Shuai. Le patron du tennis féminin répond douter de cet email qu'il a reçu, qui ne fait qu'augmenter son inquiétude. Il a essayé de joindre la joueuse plusieurs fois et demande à ce qu'elle s'exprime librement. Ce n'est pas la première fois que les médias publics chinois sont accusés de diffuser des aveux forcés. Le ministère des Affaires étrangères chinois dit tout ignorer de ce dossier. Pékin, Dominique André, France Inter.
Le sport côté terrain, le 15 de France affronte samedi les mythiques All Blacks de Nouvelle-Zélande. En charnière, Romain Ntamack œuvrera aux côtés d'Antoine Dupont, duo 100% toulousain. Après deux matchs passés au centre, le double champion d'Europe et de France retrouve enfin son poste de prédilection, ce qui n'est pas pour déplaire à Romain Ntamack, explique-t-il à France Inter.
J'ai pas du tout douté, même après ce match contre l'Argentine, à aucun moment j'ai douté. Et l'équipe non plus n'a pas douté, on savait très bien ce qu'on avait fait de bien, de moins bien. Si le staff décide de nous associer, ben on va travailler ensemble. Si l'un doit commencer et l'autre terminer, ben on travaillera ensemble quand même, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai qu'on aime beaucoup nous dire qu'on est en concurrence ou en compétition, mais nous on a vraiment pas cette sensation-là. En tout cas, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. On a de forts caractères, mais encore une fois, je pense qu'on se respecte tous les uns les autres. On est quand même des garçons très respectueux, donc voilà, on fait tout pour faire monter le niveau de l'équipe en tout cas.
France-Nouvelle-Zélande, test match de la tournée d'automne, samedi à 21h au Stade de France, match d'ores et déjà complet. La Fédération française de rugby recommande aux 80 000 spectateurs d'arriver tôt. Les contrôles des passes sanitaires ralentissent un peu les entrées. Allez, un grand merci. Le 13-14 de France Inter reste leader des audiences radio. Les chiffres sont tombés aujourd'hui leader sur cette tranche. France Inter est la première radio de France. Elle le reste en part d'audience et en audience cumulée. Merci à tous pour cette confiance. Nous travaillons pour continuer d'en être dignes. Est-ce pour cela qu'elle nous a choisi? La chanteuse Adèle, qui était l'invitée exclusive de France Inter ce matin, c'est la star de tous les superlatifs. Album les plus vendus dans le monde au XXIe siècle, plus de 120 millions. Son nouveau morceau Easy On Me est la chanson la plus écoutée de tous les temps en 24 heures. Comment l'expliquer? Réponse simple, façon Adèle sur France Inter ce matin.
Peut-être que je dirais que les gens croient en ma musique. C'est peut-être le ton, c'est peut-être aussi parce que j'écris mes paroles, ils croient à mon histoire. Mais en même temps, on n'est pas sûr. Hein. Mais quand même, je pense que les gens sont intéressés parce que mes chansons sont tristes alors que moi, j'ai plutôt un tempérament très heureux. Alors c'est peut-être ça, je ne sais pas.
Quand on entend Adèle, c'est la fille d'à côté, c'est la girl next door, ça vous va ça?
Complètement, oui.
Plus qu'être une star.
Yes, way more, yes.
Oui, nettement plus qu'une star.
La chanteuse britannique Adèle avec Léa Salamé sur France Inter. Plus politique et révoltée, un succès immédiat pour le rappeur français Orelsan avec son titre « L'odeur de l'essence » publié hier sur Internet. Plus de 2 millions de vues sur YouTube déjà en moins de 24 heures. L'artiste y attaque les médias, la radicalisation et il est en colère.
La nostalgie, l'infirmière Wattel, la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension, saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés.
La paranoïa. Orelsan, invité demain d'Augustin Trapenard dans Boomerang sur France Inter. Dans un instant, on parle harcèlement scolaire et lutte contre ce fléau qui concerne un écolier sur 10. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000.
Enfin, au livre de poche, le best-seller de Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle. 21 leçons pour décrypter les enjeux de notre époque et participer à un futur en pleine mutation. 21 leçons pour le 21e siècle, de Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, au livre de poche.
Bon, Maurice, t'as le pied de biche?
Oui, mais...
Mais quoi encore?
Je le sens pas. Voilà, j'ai encore fait mon cauchemar avec l'installateur Omiris qui débarque, il met des détecteurs partout. Le gars, il est tellement pro, là. J'en ai des sueurs dans le dos.
Arrête avec Omiris, tu vas nous porter la poisse.
Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains.
Omiris, un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Un coup d'œil vers le ciel de votre jeudi.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore beaucoup de nuages.
Oui, de la Bretagne vers la Normandie et le nord de la Seine, ça reste bien nuageux, un peu plus lumineux quand même vers le Nord-Pas-de-Calais. Du Grand Est jusqu'au centre-Val de Loire et à l'Auvergne-Rhône-Alpes, là aussi beaucoup de nuages, des éclaircies timides, un petit peu plus larges sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Lyonnais. Des éclaircies appréciables reviennent sur le sud-ouest malgré quelques grisailles tenaces. On a une zone assez bien ensoleillée entre la Loire-Atlantique et Paris, et puis des Pyrénées vers le sud du Massif Central. Le sud-est, c'est du soleil, avec du mistral et de la tramontane assez marqués. Les températures sont globalement de saison, un petit peu juste tout de même sur le sud-ouest. 9 degrés à Nancy, Dijon et Clermont-Ferrand. 11 à Paris, 12 degrés à Lille, Angers, Limoges, Montauban et Tarbes. 17 à Montpellier et 20 à Toulon.
Merci Elodie Calac de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
Il et elle s'appelaient Dina, Clément, Marion. Il et elle ont subi dans leur école un harcèlement qui les a conduits à se donner la mort. Moqueries, fausses rumeurs, menaces, insultes. Selon les estimations, jusqu'à un enfant sur 10 serait victime de harcèlement scolaire en France. Un quart des collégiens subiraient du cyberharcèlement. Depuis une dizaine d'années, l'éducation nationale se saisit du problème. Et ce matin, c'est le président de la République lui-même qui a posté un message vidéo concernant cette question. Emmanuel Macron souhaite que la honte change de camp. Pour en parler avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Bonjour.
Bonjour.
Et Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion La Main Tendue, co-autrice de la BD Camélia face à la meute. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nora Fraisse, cette lutte contre le harcèlement, elle vient pour vous de votre histoire. Qu'est-il arrivé à votre fille, Marion ?
Je suis la maman de 3 enfants et j'avais une fille aînée qui s'appelait Marion et qui est décédée le 13 février 2013 à 13 ans. À des suites de souffrances à l'école et sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de meute, le harcèlement. Et malheureusement, elle s'est ôté la vie, elle s'est suicidée. Et depuis ce jour, je mène un combat, voilà.
Vous qui avez vécu cela, quels sont les signes qui peuvent alerter en fait ?
Ah ben on passe directement aux signes, c'est compliqué. Vous aviez parlé de Camélia juste avant et en fait les signes, ce sont des signes que nos enfants ne nous donnent pas et qui nous obligent, nous éducateurs, à être vigilants, c'est-à-dire des indices. Un enfant qui change de comportement, qui dort moins, qui dort plus, qui ne veut plus voir ses amis, qui a un déficit de l'attention... Un petit qui se bagarre beaucoup, qui a des difficultés avec ses pairs, qui veut plus manger à la cantine, qui change de chemin pour aller à l'école. En fait, c'est toutes les situations où votre enfant verbalise à travers son comportement ou des décisions un changement. Voilà. Ça peut être l'énurésie, le fait de refaire pipi au lit. Et puis quand il vous dit qu'il veut plus aller à l'école, qu'il veut changer d'école, pour certains, c'est un désinvestissement scolaire, un décrochage scolaire. Et c'est beaucoup, beaucoup de signes. Et dans Camélia, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire que certains passent beaucoup de temps à l'infirmerie. Et nous, on a découvert après le décès de Marion qu'en fait, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages à l'infirmerie. Donc, c'est la répétition de la somatisation. Qu'elle était beaucoup en retard dans l'interclasse. Qu'elle était la dernière arrivée en classe ou la première à quitter les lieux, à arriver la dernière ou ne pas être choisie pour des anniversaires quand votre enfant est isolé, exclu. En fait, les indices, c'est souvent... les conséquences. En tout cas, pardonnez-moi de parler de Camélia, mais
Camélia, l'héroïne de votre bande dessinée.
Ouais, Camélia, c'est tous les enfants que j'ai rencontrés depuis près de 9 ans, qui, vous voyez, ceux qui liront l'histoire, c'est une petite fille qui est un peu bouboule, mais qui est très belle, et d'un seul coup, la meute décide de la prendre en charge, mais vraiment une charge terrible, elle ne comprend pas, elle est sidérée, elle ne dit rien à ses parents, et petit à petit, elle s'auto-exclut, elle est isolée, et elle se sent seule et coupable. Donc soyez très vigilants quand on est un éducateur, une infirmière scolaire, quand vous voyez trop l'enfant, quand vous êtes au CDI, vous voyez trop l'enfant. Quand vous êtes personnel de cantine, cet enfant qui mange seul ou qui ne mange plus ou qui mange trop, il faut s'intéresser en fait aux conséquences du harcèlement pour pouvoir faire de la prévention. Ça paraît bête ou fou, mais en fait, c'est en sachant ce que ça provoque qu'on arrive à faire de la prévention. Et les signaux faibles, en fait, ce sont tous ces petits indices. Demandez à votre enfant non pas ce qu'il a mangé à la cantine, mais avec qui il a mangé. Est-ce qu'il a joué à la récré et à quel jeu? Et petit à petit, vous découvrirez ce qu'il vit. Et surtout, dites-lui, je suis peut-être pas la personne avec laquelle tu voudras parler de choses qui te meurtrissent à l'école, mais trouve des adultes de confiance. Et Camélia a fini par trouver des ados et des adultes de confiance, comme Madame Rocher, qui, de manière détournée dans mon histoire, la professeure de français, finira par leur prouver qu'avec un simple slam, on peut tout changer.
Voilà, en les sensibilisant. Nora Fraisse, vous racontez effectivement donc l'histoire de Camélia, qui est une jeune fille qui est harcelée. Nous avons un témoignage d'auditrice. C'est Olivia qui a appelé le standard de France Inter. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Votre fille est également harcelée?
Oui, actuellement, et on l'a découvert juste avant les vacances, elle nous a informé que depuis mi-septembre, elle est harcelée par une autre jeune fille.
Et ça se traduit comment alors?
Bien, les résultats scolaires en berne, alors que jusqu'à présent, ça allait. Et là, on comprenait pas trop, on avait l'impression d'avoir affaire à une autre enfant qui avait perdu sa joie de vivre, l'enthousiasme de partir de la maison, de retrouver ses amis. Et donc, maintenant qu'on sait, on comprend mieux. Après, là où on a un gros souci aujourd'hui, c'est qu'en fait on est face au proviseur qui, lui, étant donné que notre fille a des résultats en berne, justifie le harcèlement. Il dit qu'en fait elle a trouvé un moyen de nous divertir avec ce harcèlement, parce qu'en fait c'est pour cacher ses résultats scolaires.
Merci.
Alors qu'elle vomit, qu'elle refuse aujourd'hui, elle ne veut plus aller au lycée. Qu'elle se plaigne de mots. Enfin voilà, elle somatise aujourd'hui.
Merci pour votre témoignage, Olivia. Nathalie Alimas, vous êtes secrétaire d'État. C'est difficile. Est-ce qu'il y a une zone grise entre les blagues, les mauvaises blagues, éventuellement les manipulations dont le proviseur de la fille d'Olivia semble l'accuser, et le harcèlement? Comment on le définit vraiment?
Alors, je veux d'abord saluer, si vous permettez, Nora Fraisse, resaluer, parce qu'on était ensemble ce matin. Nora a inauguré la deuxième maison de Marion à Paris. J'étais bien sûr avec elle. Nora, c'est une femme extraordinaire, une mère courage qui a vécu ce que personne ne veut et ne peut et ne doit vivre, et elle a surmonté ça, et finalement sa colère aujourd'hui se déploie, elle est devenue une force, et donc elle est très active. On travaille avec elle, notamment nous, Éducation nationale, pour déployer un programme dont je vais vous parler.
Et juste pour préciser, les maisons de Marion que vous avez inaugurées, c'est des maisons où les adolescents et les enfants peuvent s'adresser quand ils sont victimes de harcèlement, en fait.
Exactement, voilà. Donc il y en a deux actuellement. Nora a l'intention de déployer son programme plus encore, pas seulement en Île-de-France, mais sur l'ensemble du territoire national. Et effectivement, il y a des spécialistes, on peut être suivi sur rendez-vous, on peut venir dans l'urgence aussi, que l'on soit victime, témoin, harceleur, famille. Donc voilà, c'est un programme très complet qu'elle a mis en place, et je vous dis, elle a transformé sa colère en énergie pour faire avancer cette cause, ce fléau qui, comme elle l'a dit à juste titre, renferme ces jeunes, les blesse, ils s'isolent, ils sont victimes d'humiliation, de peur, et puis parfois ils commettent l'irréparable. Et un petit mot aussi pour cette maman, parce que son témoignage évidemment est difficile aussi, et c'est préoccupant. Et en tout cas, le rôle d'un proviseur, bien sûr, dès lors qu'il y a un cas de harcèlement qui est signalé dans une école ou dans un établissement, c'est vraiment de le prendre en charge immédiatement, la victime, le harceleur aussi, voir s'il y a des témoins et la famille. Donc là, on n'est pas dans la bonne attitude du tout. En tout cas, c'est parce que nous, on a mis en place à travers le programme phare, justement.
Mais comment est-ce qu'on fait pour déterminer que c'est vraiment du harcèlement, que c'est pas juste une petite blague entre collégiens qui est dégénérée?
Tout ça, c'est évidemment, c'est sensible, c'est de la perception. Donc, on discute Là, ce que disait cette dame, elle a eu de la chance quelque part, puisque sa fille est venue parler avec elle. Donc,
ce qui n'est pas toujours le cas, c'est parfois difficile.
Non,
hein, c'est ce que raconte aussi Nora Fraisse dans sa bande dessinée.
C'est même d'ailleurs le point de faiblesse, c'est que ces enfants qui sont victimes, finalement, intériorisent et n'osent plus aller parler à un copain ou à un adulte. Donc, c'est la raison pour laquelle on a déployé ce programme dans les écoles, expérimenté l'année dernière, mis en place, généralisé cette année. C'est le premier programme français de prévention. La concentration de toutes les meilleures pratiques, de tout ce que l'on a pu observer à l'international. On l'a mis dans le programme phare, on le généralise à l'ensemble de nos établissements. Justement, Nora Fraisse l'a dit avec justesse, tout est dans la sensibilisation et la prévention.
Je voudrais revenir sur les annonces qu'a fait le président de la République ce matin. Emmanuel Macron qui annonce le lancement d'une application anti-cyberharcèlement le 30-18, le renforcement des points d'accueil des adolescents, la certification, la formation au numérique des élèves de 6e, le contrôle parental par défaut aussi
très
sur tous les téléphones. C'est suffisant ça ?
Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites. Le président a fait des annonces aujourd'hui, mais je vais rappeler quand même tout ce qui a été mis en place depuis 2017. C'est d'abord l'interdiction des téléphones portables à l'école. C'est cranter dans la loi, inscrire dans la loi le droit à une scolarité sans harcèlement. C'est un premier programme non au harcèlement. C'est ce deuxième programme, le programme phare dont je viens de vous parler, sensibiliser, prévenir, former les équipes. Vous voyez, typiquement ce proviseur, il a peut-être besoin d'une formation. Et puis, évidemment, prendre en charge la victime, encore une fois, la victime, le harceleur, le témoin et la famille. Ça, c'est le programme phare. Donc, vous voyez que depuis 2017, on est quand même, on avance, on déploie largement.
Justement, phare, ça a été déployé dans plusieurs académies.
Six académies.
Ça marche. À ce jour,
oui.
On voit les chiffres diminuer.
Absolument.
Parce que depuis 10 ans que l'éducation nationale s'est attaquée à ce problème du harcèlement scolaire, les chiffres, ils ont plutôt stagné. Donc, avec phare, là, on voit vraiment une diminution.
Avec phare, donc, qui a été expérimenté pendant 2 ans, dans 6 académies, on voit que on a une régression, donc c'est plutôt bon signe. Et là, on va le déployer dans toutes nos écoles et dans tous nos collèges et lycées, etc. Bref, dans tous nos établissements. Et puis, c'est pas suffisant, en effet. Il faut aller encore plus loin. Donc, phare, c'est déjà très, très robuste et très solide. Mais phare, c'est à l'école. Avec phare, on lutte contre le harcèlement scolaire.
Donc, il y a une plateforme, juste pour détailler un tout petit peu, mais il y a une plateforme pour les profs, les élèves et les parents. Il y a des référents départementaux aussi.
Des référents académiques, des référents dans les établissements, 5 par établissement, qui vont donc bâtir un process d'alerte, prévention, sensibilisation, etc. Des élèves qui deviennent des ambassadeurs, des équipes mobiles qui peuvent intervenir dès lors qu'il y a des situations complexes. Donc, vous voyez bien que c'est vaste et c'est l'idée vraiment de pouvoir le déployer partout. Mais là, on est à l'école. Il y a un autre phénomène qui est le cyberharcèlement.
Oui.
Et là, c'est autre chose parce que le cyberharcèlement, c'est partout. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne évidemment nos enfants. Ça concerne les familles, ça concerne l'école, ça concerne tous les citoyens. Donc d'abord, moi, le message que je veux passer sur votre antenne aujourd'hui, c'est que nous sommes tous des ambassadeurs et que nous devons tous lutter contre ce fléau. Et ce fléau, justement, nous voulons lutter contre. Le président de la République l'a dit ce matin. D'abord, il y a un énorme travail qui est fait avec les plateformes. Il faut quand même rappeler que les plateformes doivent se responsabiliser. Parce qu'il faut avoir au moins 13 ans, normalement, pour s'inscrire sur une plateforme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Alors, nous avons le témoignage de Caroline, qui nous a appelé au Standard de France Inter. Bonjour Caroline.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur.
Voilà, moi je suis professeur en collège, en banlieue parisienne. Dans notre établissement, depuis des années, nous n'avons plus de médecin scolaire. Notre infirmière a fait un burn-out en mai 2020, elle n'est pas remplacée depuis. Notre assistante sociale a été mutée l'année scolaire dernière. Elle n'est pas remplacée. Donc nous n'avons personne dans le pôle social médical. Personne. Nos CPE sont très occupés.
Conseillers principaux d'éducation.
Voilà.
Oui.
Nos assistants d'éducation sont aussi très occupés. Donc nous, les professeurs, on enseigne et on fait aussi pas mal d'autres choses à côté. On n'est pas formés. Donc à qui les enfants peuvent-ils se confier ? Il n'y a plus personne dans les établissements. C'est bien joli, une application. Ce que vient de dire Madame Elina, c'est très bien. Néanmoins, la réalité du terrain, croyez-moi, elle est tout autre. Et nous, qui sommes sur le terrain, on en souffre aussi.
Alors,
Caroline, voit les élèves dégringoler.
Caroline, dans la bande dessinée de Nora Fraisse, on voit notamment que c'est une professeure en fait qui finit par donner un peu l'alerte et par sensibiliser les élèves. C'est pas aussi votre rôle de faire ça ?
Ben oui, bien sûr, c'est notre rôle. Simplement, c'est plus facile à un enfant de se confier à une assistante sociale ou à une infirmière qu'ils n'ont pas en classe que, enfin, qu'ils n'ont pas en tant qu'enseignants, plutôt que de se confier à des enseignants. Vous savez, on a un rôle, nous, qui n'est pas un rôle vraiment de confiance comme ils l'ont dans l'infirmière. D'ailleurs, Madame Nora Fraisse disait que sa fille avait passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Notre infirmière, oui, c'était la confidente des élèves. Depuis qu'elle n'est pas là, nos élèves souffrent énormément.
Merci Caroline pour votre appel à France Inter. Nora Fraisse, très rapidement, vous avez entendu le témoignage de Caroline. Effectivement, le gouvernement fait beaucoup. On a entendu aussi les annonces d'Emmanuel Macron ce matin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de personnel quand même ?
Alors, c'est pour cette raison, pardonnez-moi, qu'on a créé la maison de Marion.
Parce qu'on est bien conscient qu'il y a un problème de personnel, mais même si demain j'embauche 2000 personnes, il va falloir les former. Donc notre projet avec la maison de Marion, c'est justement proposer aux éducateurs et aux professionnels d'être aidés dans la détection et qu'on prenne en charge aussi ces enfants et ces familles, faute aujourd'hui de personnel. Donc ce que je veux dire, vous avez raison, une application... Et c'est très bien, mais ça suffit pas. On a quand même 17 millions de personnes qui font face à l'électronisme. C'est pas rien, ça veut dire qu'on... Et c'est uniquement pour le cyberharcèlement. Je veux pas faire de la publicité parce qu'on s'en fiche. Mais justement, on a travaillé sur ça. On a sorti une application qui s'appelle Colibri, qui vont permettre aux enfants de détecter, de signaler,
alors,
quel que soit le harcèlement dès 8 ans.
C'est payant.
Et ça, c'est important. Non, c'est gratuit. C'est moi qui l'a créé. Tout ce que je fais, c'est gratuit.
D'accord.
Dites pas que c'est payant.
Ah, j'ai lu que c'était 18 euros, mais pas du tout. D'accord.
Non, ça, c'est vous savez, une assurance à 18 euros qui vous permet de prendre un avocat et d'avoir du raccrochage scolaire pour 4 800 euros. Je pense pas. Non, sachez que moi, je lutte contre le déterminisme scolaire depuis des années compte tenu de mon parcours personnel. Et ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions. Et vous avez raison, une appli, ça ne suffit pas, ça n'est pas la bonne réponse. C'est une proposition pour aider, mais il faut faire de la prévention. Et Madame Elimas l'a dit, elle était là avec nous ce matin, c'est toute la communauté éducative qui doit agir et surtout proposer aux personnes les plus éloignées du système scolaire. Franchement, faites attention à tous ces gens qui
font preuve
d'électronisme. Pardon. Et le numéro d'aide aux victimes gratuit.
Je vais le redonner. Merci beaucoup Nora Fraisse. Je suis désolée de vous interrompre. Nathalie Elimas, très très rapidement, en un mot, la réponse sur le manque de personnel. On en a assez ou pas?
Non, indéniablement, il n'y en a pas assez.
Il y a
numéro de téléphone 30-20 contre le harcèlement scolaire,
voilà.
30-18 contre le cyberharcèlement, et bien sûr, cette application. Merci.
Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, et Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion, la main tendue. Merci à toutes les deux d'être venues sur France Inter.
France Inter, le 13-14.
13h46 sur France Inter, à suivre, une semaine dans la vie d'un survivant, Gervais Thomas Diatunga, ex-enfant soldat en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il raconte comment il est devenu chorégraphe. Puis ce sera le vif de l'histoire, chronique d'histoire et d'actualité. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
On parle théâtre aujourd'hui.
6 personnages en quête d'auteur, 100 ans et une reprise.
Rendez-vous juste avant 14h et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro, un chanteur qui vient de sortir un nouvel album et qui sera en concert la semaine prochaine à la Nouvelle Ève à Paris, c'est Cyril Mokayesh.
Et c'est d'une chanson de Marc Lavoine qu'il a choisi de me parler. Cher ami, également titré Toutes mes excuses, extrait de son troisième album, Les Amours du Dimanche.
Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était quand justement cette chanson, il l'avait reprise avec Françoise Hardy. Début des années 2000, c'était dans son album de duo. C'est comme ça que je l'ai découverte. Et puis après, j'ai remonté un peu le temps et j'ai découvert sa version.
Je pense à vous, souvent, je continue quand même d'aimer les bas, tout blanc, que le désir entraîne.
Je manque de vous souvent, mais je m'en vais quand même. Laissez voler le vent qui souffle sur la peine.
Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau.
Pour vous dire qu'il ne fait pas beau.
Et que j'ai mal.
Que j'ai
seul
mal,
depuis que je vous ai perdu.
Seul depuis que je vous ai perdu.
Je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur.
Avec mon cœur à l'intérieur.
Je vous fais toutes mes excuses.
Toutes mes excuses.
C'est une chanson qui vous transperce parce que Ils sont beaucoup à avoir écrit des chansons d'amour, de rupture amoureuse, mais celle-ci, elle a l'originalité d'être écrite sous forme de lettres. Et c'est d'abord le vouvoiement qui vous saisit, parce que ça décrit simplement quelque chose qu'on a tous peut-être ressenti. C'est l'impression que la personne est déjà tellement loin que soit on la sacralise, soit on a l'intime sentiment qu'il va falloir tout refaire, tout reconquérir. Donc il y a cette pudeur dans cette chanson. Et puis aussi l'impudeur, parce que dans cette lettre, il lui dit tout ce qu'il ressent. Et je pense que ça ramène à nos propres expériences, à notre vécu. Peut-être ça nous ramène à une lettre qu'on n'aurait pas osé écrire à quelqu'un. Et ça peut rappeler aussi les fragments du discours amoureux de Roland Barthes, où il dit que l'être qui aime est celui qui attend. Et là, il attend et il regrette. Alors je ne sais pas si on récupère les gens en écrivant des lettres, mais néanmoins c'est courageux.
Cette chanson est sortie en 1989, Frédéric.
La première version de cette chanson, oui, à l'époque, Cyril Mokayesh avait 4 ans. Et c'est une chanson qu'il aurait bien aimé écrire.
J'aurais tellement voulu l'écrire que je l'ai reprise dans mon premier album solo en 2011. Et ce qui est amusant, c'est que c'est la reprise qu'on me réclame souvent, pas plus tard que la semaine dernière en concert. Ça m'a aussi permis de rencontrer Marc et de faire ses premières parties au Casino de Paris la même année où l'album est sorti. Marc Lavoine, qui avait été particulièrement touché par une chanson à moi, qui s'appelait Communiste. Il la passait devant son public, dans la salle, avant chaque représentation. C'est un souvenir marquant pour un jeune artiste. C'était une belle attention.
Je rêve à vous, souvent, je me souviens de tout. Je me réveille à tout, mais je vous vois partout.
Est-ce que vous pensez souvent aux personnes avec qui vous avez rompu ?
Oui. On en rêve malgré soi d'ailleurs. C'est assez étonnant à croire que les gens qui comptent, les gens qui ont compté, continuent à vivre un peu avec nous.
Est-ce que vous les aimez encore, ces personnes-là ?
Bah oui, bien sûr.
Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal.
Cher ami de Marc Lavoine, c'était donc Frédéric, le choix de Cyril Mokayesh.
Tu viens de faire paraître Diane, un très bel album de duo avec notamment Dominica Kerenan ou Florent Marché. Et Cyril Mokayesh qui sera en concert les 23, 24 et 25 novembre à la Nouvelle-Ève à Paris.
Merci Frédéric, à demain.
À demain.
La danse peut parfois sauver la vie, la preuve avec notre feuilleton de la semaine, une semaine dans la vie du chorégraphe Gervais Thomas Diatunga. En République du Congo dans les années 90, il participe contre sa volonté à la guerre civile avant d'être envoyé pour travailler dans des mines. Aujourd'hui, alors qu'arrive sur scène son nouveau spectacle Réalité, il raconte à Stéphane Capron comment il est devenu chorégraphe au Congo puis en France.
Réalité, c'est vraiment une performance. J'ai cherché à ramener la réalité des gens qui travaillent dans les mines parce qu'on travaille sans relâche et c'est non-stop. Donc le rythme, il est vraiment très soutenu et donc la pièce, elle est vraiment très vivante parce qu'on court dans tous les sens, on rampe, on saute, on crie et on lâche rien jusqu'au bout et on est à 100 km à l'heure. Donc là, la musique commence à monter du spectacle. Donc et là, ça commence à envoyer pendant une heure.
Gervais Thomas Diatunga a posé ses valises à Liré, dans le Maine-et-Loire. Depuis 2017, sa compagnie s'appelle Dance in Color. Il veut témoigner, éveiller les consciences, comme il avait commencé à le faire en 2006 au Congo.
Mon ancienne compagnie s'appelait Tumamana, je l'ai créée au Congo. Tumamana, dans ma langue, ça veut dire obéissance, en français. Je suis toujours resté dans ce cadre de cet enfant soldat, cette étiquette de tu dois toujours être au-dessus des autres, tu dois toujours obéir. Et donc j'avais donné ma compagnie, Tumamana, où au Congo, je commençais à encadrer des jeunes. Je l'avais créé, ça fait depuis 2004, donc j'ai commencé à encadrer des jeunes comme moi. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont devenus des chorégraphes. Et j'ai commencé à créer mes premiers spectacles, Advienne qui pourra, Oyekuyaya, donc où j'étais toujours, si je suis un artiste très engagé, j'aime toujours témoigner. pour moi, j'ai pas peur. Je me dis, je suis déjà mort, j'attends que je puisse pourrir. Donc, j'aime dénoncer les choses. Et donc, j'avais créé, par rapport à la réalité aussi que nous vivons, des jeunes au Congo. Ce spectacle avait remporté le deuxième prix au premier Biennale de la danse à Brazzaville. Et j'en avais créé plein d'autres. J'ai créé mon solo Intouchable qui m'avait ramené ici en France.
Donc, vous êtes basé... Dans l'Ouest?
Donc, je suis à côté de Nantes, je suis au bord de la Loire. Dans cette ville qui m'a accueilli, j'étais juste venu donner un stage de danse. Et après le stage de danse, c'est drôle ce que je vais dire, mais c'est en fait, après le stage, il y a le bord de la Loire, et au bord de la Loire, il y a une ville où j'habite maintenant qui s'appelle Liré, dans le Maine-et-Loire. J'avais fini le stage et j'étais assis au bord de la Loire. Et j'ai eu comme l'impression que j'étais au bord du fleuve Congo et que je regardais Kinshasa. Donc je me regardais mon passé de cet enfant qui creusait dans les mines de l'autre côté. Je regardais Kinshasa et je me suis senti chez moi. J'ai dit je vais y habiter ici. Mais avant j'habitais à Toulouse chez ma sœur. J'ai dit à ma sœur je vais y aller habiter à Ancigny. Et j'ai débarqué à Ancigny sans que j'ai rien du tout. C'est là-bas je me suis reconstruit. Je me suis donné... Le courage, les moyens de me dire que les gens ils m'ont accueilli. Et j'ai commencé à créer mon association, donner les cours, rencontrer des gens. J'ai vécu là-bas pendant 8 ans. Et là, il y a eu un moment où j'ai rencontré ma femme et on a eu des enfants, la femme de ma vie, j'en ai 3. Et j'ai eu envie d'acheter une maison avec... Un lieu pour créer une école de danse.
Donner la chance, transmettre, c'est ce qu'il y a en vous, c'est ce qu'il y a dans chaque artiste, mais chez vous, c'est encore plus présent dans votre travail, dans votre façon de concevoir votre métier d'artiste.
Pour moi, donner, c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que la vie que j'ai menée il y a plus d'une dizaine d'années, je ne m'attendais pas à être ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai eu la chance. Parce qu'on m'a donné, parce qu'on m'a ouvert les portes et parce que je l'ai voulu. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de tout donner et c'est ce que je suis. Dans ma compagnie, j'aime tout donner et j'aime connaître les histoires de mes danseurs. Moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un si je ne connais pas son histoire. Ce n'est pas le talent qui m'a intéressé les gens. C'est l'humain, ce qu'il est, ce qu'il a vécu, comment il voit la société, comment il voit l'autre. C'est ça qui m'intéresse dans mon métier. Donc voilà, j'aime donner, j'aime rencontrer des gens et j'aime échanger, tout simplement.
France Inter, le 13-14.
À 13h55 sur Inter, c'est le vif de l'histoire et on parle théâtre. 6 personnages en quête d'auteur. La pièce de Pirandello a été créée il y a 100 ans, en 1921. Depuis 20 ans, la mise en scène d'Emmanuel de Marcimota ne cesse d'être jouée, reprise actuellement au Théâtre de la Ville à Paris. Jean Lebrun, c'est une œuvre au long cours.
Oui, quand on pense que Hugues Kester a reçu le prix du meilleur acteur pour cette mise en scène, et ce jeu du personnage du père, il y a 20 ans. Alors Pirandello, en 21, écrit avec la régularité d'un métronome en basculant d'un genre à l'autre. Toutefois, la première de 6 personnages au théâtre Valier de Rome, il surprend vraiment son monde. Il est arrivé à ses spectateurs de voir du théâtre dans le théâtre. Mais là, quand ils ont pris place dans la salle, ils se sont retrouvés face à un rideau de V, sur un plateau nu, encombré de quelques éléments de décor épars, et le spectacle a commencé avec un machiniste qui clouait une planche à grand bruit, tandis que le directeur l'entretenait de banalité, lui apprenant tout de même que le théâtre était tombé bien bas, qui en était réduit à préparer une œuvrette de Pirandello. On comprend que, d'emblée, le public romain avait été pris d'une certaine agitation.
Pirandello était habitué, lui, à venir assister aux répétitions de ses pièces. Il avait eu l'idée de raconter comment les choses s'y passaient entre directeur, personnel et comédien.
Sauf que surgissait sur la scène un groupe en habit noir de deuil, encombré de valises, apparemment désemparé. C'était le père, Hugues Kester, la mère, la belle-fille, le fils, etc. Ils prétendaient être des personnages que leur auteur avait laissés inachevés et qui en cherchaient un autre plus consciencieux qui les finirait. Ils s'offraient comme matière première au directeur jusqu'à affirmer très vite qu'ils étaient en réalité plus intéressants que les comédiens qui tenteraient de les interpréter. Il faut entendre Hugues Kester dans le rôle du père affirmer « Un personnage a toujours sa vie propre, il est toujours quelqu'un, tandis qu'un homme, en général, peut n'être personne. Chacun des personnages vient bientôt présenter sa vérité, contradictoire, multiple, qui excède les possibilités des comédiens, et la pièce devient impossible à monter. » Alors à cet instant de la première représentation, 1921, on crie dans la salle « Bouffon, au cabanon !» Des partisans de Pirandello montent à l'assaut des loges, où se sont regroupés ses adversaires, enfin à moins que ce soit l'inverse, c'est toujours l'incertitude.
On n'est pas au bout de nos surprises, Jean, le père va en venir à des révélations qui vont faire exploser les cloisons de sa famille.
Oui, alors il faut avoir vu Luc Kester, toujours son chapeau sur la tête, son visage hâve, son par-dessus élimé, il s'avance. Avec lui, c'est du free jazz, on ne sait jamais à quelle note il va parvenir après la précédente. Le père devrait incarner la rigueur, l'autorité, mais il avoue que c'est par lui que passe le désordre qui secoue tout depuis le début de cette pièce funeste. N'a-t-il pas eu, avec sa belle-fille, une relation sexuelle qui touche à l'inceste et sa transgression a fait entrer en malédiction les personnages.
Il fallait de l'audace hein, pour dire ça sur une scène en 1921 en Italie.
Sauf que Pirandello refusait de se livrer personnellement. Vous désirez quelques notes biographiques ? J'ai oublié de vivre, au point de ne rien pouvoir dire sur ma vie, si ce n'est peut-être que je ne la vis pas, mais que je l'écris. Ainsi parlait-il à son premier traducteur. Celui de la mise en scène d'aujourd'hui, François Regnault, laisse entendre cette ambiguïté qui explique le succès persistant de la pièce. Que s'est-il passé dans la famille de Luigi Pirandello à l'époque de son père Stefano ? Luigi lui-même a eu un fils, Stefano encore, qui lui-même composa une pièce intitulée « Un père, il en faut bien un ». On s'y perd, mais c'est justement cette incertitude, j'y reviens, qui est le ressort de la pièce.
Six personnages en quête d'auteur au Théâtre de la Ville à Paris. Merci, à demain, Jean Lebrun. 13h59 sur France Inter, dans quelques minutes, La Terre au Carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
Sujet brûlant aujourd'hui.
Oui, le nucléaire peut-il nous sauver face au réchauffement climatique ?
À tout de suite.